Chapitre 5. L'index d'un cadavre pointe un avertissement, gravé à une dizaine de mètres au-dessus du sol. La victime est nue, intégralement rasée, agenouillée, explosée sous ses chairs. Sur son crâne, 7 papillons vivants, des sphinx têtes de mort. Le message indique « Derrière le tympan de la courtisane, tu trouveras l'abîme et ses eaux noires. Ensuite, des deux moitiés, le méritant tuera l'autre moitié de ses mains sans foi et l'onde deviendra rouge. Alors, au son de la trompette, le fléau se répandra et sous le déluge, tu reviendras ici, car tout est dans la lumière. Surveille les mots et surtout, prends garde aux mauvais airs. » Une fois assis en tailleur au centre de mon salon, j'éparpillais mes notes autour de moi. Derrière le tympan de la courtisane, le légiste avait découvert un tube en étain, avec pour contenu un papier calque griffonné de signes incompréhensibles. J'en avais la copie scannée sous les yeux, que j'avais ensuite reproduite sur calque également pour simuler l'original. Des signes tracés à la main sur un calque. Pourquoi ? Pourquoi pas du papier tout simple ? Quel rapport avec un abîme ? Que signifiaient les eaux noires ? Ces pensées m'amenèrent à Paul Legendre, mon docteur en théologie. Je me jetais sur mon PC, vérifiais les emails. Hormis les publicités stupides, aucun courriel intéressant. Nouveau coup de téléphone, répondeur, tant pis. Les symboles réclamaient qu'on les complète. Ces traits horizontaux et verticaux, ces barres obliques, pouvaient très bien représenter des mots censés reconstituer, eux aussi, un autre texte. Mais il en manquait une partie. Une partie. Mes côtes se rétractèrent. Je cueillis l'avertissement et lus à voix haute. Ensuite, des deux moitiés, le méritant tuera l'autre moitié de ses mains sans foi. Des deux moitiés. Je ne disposais que de la moitié du message, d'où le calque. Fallait-il le superposer à un autre? Pourtant, Van de Velde avait dépecé le corps. Cœur ouvert, vessie crevée, crâne scié, cerveau cisaillé. De la belle ouvrage, mais la mort n'avait rien révélé d'autre. Alors où diable chercher cette moitié manquante? Comment remonter jusqu'à l'abîme et ses eaux noires? Le message. Tout devait se nicher dans le message, derrière le repli des lettres. Je le relus 10, 100 fois, m'imprégnais de chaque terme, chaque virgule, la moindre majuscule. Majuscule à courtisane, la victime. Majuscule à moitié. Cette autre moitié signifiait-elle le mari? Auquel cas, elle se trouvait en danger lui aussi. Le tueur ne s'était peut-être pas attaqué à une seule personne, mais à un couple. Ça bousculait la donne. Je me levai brusquement, survolté. Pourquoi faire? Aller où? Je n'avais que des bribes. Ma pizza commandée chez Speed Rabbit disparut dans mon estomac sans que j'en sente le goût. Ma radio bruissait, changement de station, n'importe laquelle. Pas de silence, surtout pas de silence. Sinon, elle pouvait revenir. Les voix. Tout était forcément là sous mes yeux. Je baissais les paupières. Une ombre grimpait au sommet d'un échafaudage en pleine nuit. Avril. Autour, des figures divines. Des vitraux, la croix du Christ, l'écho des prières. Pourquoi une église? Pourquoi si haut, invisible? La jouissance. Pour qu'il fût le seul à en jouir au milieu de la foule. Je l'imaginais chaque dimanche, levant les yeux vers l'avertissement, alors que les hommes de foi prêchaient la parole de Dieu. En ressentait-il une forme d'exaltation, de domination? Annoncer un crime gravé dans la pierre, au cœur même de la maison de Dieu et sous le regard de tous. Une belle petite jouissance de pervers. Mes yeux se braquèrent à nouveau sur le libellé. Le méritant. Le tueur parlait-il de sa personne? Pourquoi s'acharnait-il à abandonner des textes codés? Quel rôle tenait dans son jeu cette femme, aux organes démolis? Que signifiait « Sous le déluge, tu reviendras ici, car tout est dans la lumière » Où fallait-il revenir? Dans l'église? Une fois mon stock d'idées épuisé, je décidai de me doucher, puis enfilai une tenue légère. Short, t-shirt. Mes fenêtres, ouvertes au maximum, ne brassaient plus que des salves de moustiques. En bordure de balcon, mes plantes vertes crevaient de soif. Je les arrosais d'une eau bien fraîche. 22 heures déjà. Le soir qui dévale. La nuit, le noir. Seul. Seul dans la cuisine, seul dans le lit. Ne pas se rappeler, s'occuper l'esprit. Télé, allumez la télé. Coup de frein, cri. Viens nous rejoindre, Franck. Héloïse veut te voir. Viens, viens, ne nous laisse pas seuls. Suzanne, 6 ans qu'elle n'a pas décroché un mot. Depuis, ces horreurs. Pourquoi me harcèle-t-elle dans ma tête? Ne pense pas, Franck, ne pense pas. Les trains, démarre les trains. Un décor à finir, une famille à mouler, à peindre, à installer. Demain, j'achète des rails. Agrandir le réseau, plus grand, plus de locomotives, et du bruit. Toujours du bruit. Je posais une main tremblante sur mon pilulier quand on frappa à la porte. Sur le palier, une fillette frissonnante de larmes. La petite au livre de fantômette, me semblait-il. Je m'accroupis. Que se passe-t-il ? Du haut de ses 9 ou 10 ans, avec sa tête inclinée et son visage rond d'enfant, elle brûlait d'une timidité touchante. Ses doigts minuscules se tortillaient dans les plis de sa chemise de nuit bleue.
« Je suis enfermée dehors. Maman est partie travailler. J'ai voulu rattraper le chat, sortir en même temps que maman, et la porte s'est refermée. »
Une tendresse s'égara sur mes lèvres. « Quand rentre ta maman ?»«
Demain matin, elle est infirmière. »
« Et ton papa ?»«
Il est parti il y a longtemps. »
Je l'invitai à entrer d'un geste généreux. « Vous venez d'emménager, ta maman et toi ?»«
La semaine de... »
La fillette resta figée, en extase devant mon réseau ferroviaire, ses tunnels, ses petites machines à vapeur qui roulaient des mécaniques et crachotaient du plaisir. Elle chassa ses larmes d'un large mouvement de bras. « C'est joli, n'est-ce pas ?» murmurai-je en m'agenouillant près des figurines en plâtre. Je la contemplais, suspendue aux minutes, avec ce regard simple que ne perdent jamais les pères aimants. « Sais-tu dans quel hôpital ta maman travaille ?» La fillette secoua la tête sans répondre, ses yeux de jais flambant de trésors secrets. Pourquoi venir me voir, moi, un flic perdu dans ses souvenirs que personne ne croisait et qui ne souhaitait croiser personne? J'ai vu un jour dans un reportage un lion s'attendrir sur une antilope blessée. Cette petite me déstabilisait tellement. Je réfléchis une seconde et proposai. On va glisser un mot sous la porte de ton appartement, signalant que tu es ici au 32. Comme ça, quand ta maman rentrera, elle viendra te chercher, ok? Je vais m'installer dans le canapé, tu pourras dormir dans mon lit. Elle regroupa ses mains sur sa poitrine et clama un « Oui !» victorieux. La soirée se consuma à la lueur de nos mimiques complices. Je lui parlais de train, lui expliquais les règles à respecter, la manière d'animer les personnages, comment, aussi, utiliser des matériaux de tous les jours pour constituer le décor. Du papier, des bouchons de liège, des allumettes qui, au monde des jouets et surtout aux mirettes des enfants, grandissaient en jardinets, parterres de fleurs, champs de luzerne. La paternité ne s'oublie pas. Elle croit surtout de l'absence.
Tu peux poser la main sur mon cœur,
murmura-t-elle alors que je l'abordais de ce geste simple et si douloureux. Un peu surpris par la requête, je posai doucement ma paluche sur la poitrine à gauche et ne sentis aucune pulsation. Mon estomac se nouait autant que le sourire de la petite s'étirait.
C'est à droite que se cache mon cœur, confia-t-elle dans un souffle.
Je voulus déplacer ma main, mais elle l'écarta d'un mouvement un peu sec.
Il s'agit d'une anomalie génétique, mais pour moi d'une chance énorme. Tu devines pourquoi ?
Je secouai lentement la tête.
Avant, quand papa me serrait dans ses bras, nos cœurs se trouvaient face à face. Chacun d'entre nous percevait les battements de l'autre. Et tu sais quoi ? Il arrivait un temps où les battements se produisaient exactement au même moment, au même rythme. C'est comme ça que je savais que mon papa m'aimait.
Je l'écoutais avec tendresse, bercé par le miel de ses phrases. Elle me dit encore, en tendant un doigt,
ton écran d'ordinateur, pourquoi il se met à clignoter ?
Un email. Je volais jusqu'à mon clavier, déployais la fenêtre correspondant au dernier courriel. Paul Legendre, mon docteur en théologie. J'avalais les lignes qu'il m'écrivait en apnée. Des poussées de sang battaient dans mes tempes. Je dois sortir, une urgence. Mon voisin va te garder. Tu connais Willy ? Un garçon avec des spaghettis sur la tête. Il est très gentil, tu verras. Elle se redressa avec cette posture agressive des cobras.
« Non, je veux rester ici avec toi. T'en vas pas. »«
Je reviens. » Ses yeux virèrent au gris orage.
« T'en vas pas, Franck. Reste avec moi. Si tu la mets en colère, elle va partir. »
« De qui tu parles ?» Mais elle se glissa sous les draps sans plus ouvrir la bouche. Willy fumait à l'autre bout du palier devant sa porte fermée, sa figure molle écrasée contre son épaule. Je lui expliquai pour la gamine. Il bâilla, tira sur sa roulée et envoya...
« Vas-y, man, amène-la. Mais je te préviens, je fais pas de babysitting, je vais me pioter. »
Je fonçais dans ma chambre. Drap défait, oreiller ramolli, mais pas d'enfant. Cuisine, salle de bain, salon, rien. Je voulus la héler, sans prénom à appeler. Couloir vide. Elle avait dû se faufiler dans la cage d'escalier, fine souris. Je dévalais 4 à 4, fouillais les recoins discrets et les cachettes improvisées. En vain. Je songeais à l'oromo déposé sous la porte numéro 7. Votre fille a été enfermée dehors. Elle se trouve chez moi au 3e en sécurité, numéro 32. Je suis policier. Et merde! Je jetais 20 euros dans la main de Willy et l'exhortais à veiller dans le couloir du 3e. La cigarette entre les dents, il bougonna avant de s'abâcher contre le chambranle, jambes écartées. Splendide noir dans son pyjama. Quant à moi, après avoir enfilé une chemise propre et un pantalon en toile fine, je fonçais vers Meudon-la-Forêt, mon Glock pressé contre mon flanc gauche. À 2 heures du matin, Paul Legendre voulait m'expliciter de vive voix ce qu'il avait décrypté dans le message.